Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, nous sommes ensemble pour revivre 7 jours d'événements avec bien sûr la rédaction. Samedi 3 mai, rendez-vous avec l'actualité africaine après le flash. Cette semaine, nous allons parler de la rumeur. Cette rumeur qui fait des dégâts, vieille comme le monde, mais qui a en quelque sorte pris un coup de jeune avec l'internet. Nous sommes en effet en compagnie de notre confrère Franck Cognard, co-auteur avec Mathieu Aron, de folles rumeurs, les nouvelles frontières de l'intox. C'est une enquête publiée chez Stock. Bonjour Franck Cognard.
Bonjour.
La rumeur se porte bien, elle fait toujours autant de ravages. Hein.
Elle se porte de mieux en mieux et je crains qu'elle ne se porte de mieux en mieux au fur et à mesure des années qui vont arriver.
Grâce
à Internet. À cause d'Internet. C'est un peu le problème. Si on ne sait jamais très bien la part des choses entre ce que Internet nous apporte de positif pour démonter les rumeurs, parce que ça existe aussi, mais c'est surtout qu'elle les propage beaucoup plus vite.
Et que de dégâts elle fait, cette rumeur?
Énormément. Il y a des morts, il y a des situations très compliquées, il y a des entreprises qui ferment ou qui perdent de leur valeur boursière parce qu'il y a des attaques, ce que les spécialistes appellent des attaques informationnelles. Ce qu'on appelle plus communément, nous, des rumeurs. Mais il y a des boîtes qui ont d'énormes difficultés financières et puis il y a des morts, comme vous le disiez.
Parce qu'il faut rappeler qu'il y a des rumeurs à tous les niveaux et dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Hein.
Bah, ça part, on va dire, des cours d'école pour aller jusque dans le CAC 40. Donc, entre tout ça, on a un éventail de terrains de dissémination pour la rumeur qui est absolument incroyable.
Alors, commençons notre voyage, Franck, en France, avec la satisfaction du Premier ministre Manuel Valls après l'adoption mardi par le Parlement, malgré l'abstention de 41 députés socialistes, de son plan de rigueur de 50 milliards d'euros.
C'est un acte fondateur, important, pour la suite du quinquennat du président de la République. C'est un moment important pour notre pays et je ne doute pas un seul instant que les Français sauront aussi en tirer toutes les conclusions.
Autre chose, nous allons parler de la Centrafrique, car l'État est en ruine. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a donné cette semaine plusieurs cartons de documents officiels, des traités, par exemple, signés par la RCA, au chargé d'affaires centrafricain à l'ONU, Mesma Dembassa, pour qu'il reconstitue les archives du ministère des Affaires étrangères qui ont été pillées, on le sait. Écoutons ce diplomate interrogé par notre correspondant à New York, Karim Lebourg.
Toutes les archives ont été détruites. Et au ministère des Affaires étrangères, les grands traités, les accords signés entre la RCA et d'autres pays par l'ONU ont été pillés entièrement. Par exemple, la Cour internationale de justice, tout ce qui concerne la communauté internationale, la Déclaration universelle des droits de l'homme, si c'est pas pillé, c'est incendié et on ne pouvait plus retrouver ce genre de documents. La RCA est entièrement à terre, c'est un pays à reconstruire. C'est pas à construire, mais à reconstruire. Parce que un pays qui n'a pas d'archives, ce n'est pas un pays. Et j'espère que petit à petit, on va reconstruire tout cela grâce à l'aide de la communauté internationale.
RFI, une semaine d'actualité. Merci de votre fidélité.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Et avant de vous retrouver, Franck Cognard, faisons une étape en Ukraine. Après la prise d'une nouvelle ville par des militants pro-russes dans le bassin du Donbass, c'est-à-dire dans l'est du pays, cette ville s'appelle Louhansk. Reportage mercredi de nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Bertrand Eclair.
Avec Lugansk et après Donetsk, les insurgés pro-russes s'emparent d'une deuxième capitale régionale du bassin minier du Donbass où ils veulent organiser un référendum d'autodétermination le 11 mai. Selon un scénario désormais bien huilé, des militants pro-russes armés de matraques mais aussi des hommes entrés hiver armés de fusils automatiques et de lance-roquettes ont investi les bâtiments. En quelques heures, ils ont pris la préfecture régionale, les bâtiments du parquet et de la télévision publique. Ils occupaient déjà le siège des services spéciaux. Les forces de l'ordre n'ont rien pu ou voulu faire. Le face-à-face a été un peu plus long au siège régional de la police. Mais en fin de soirée, les policiers ukrainiens assiégés ont abandonné leur quartier général et leurs armes aux pro-russes. Les insurgés qui détiennent en otage plusieurs dizaines de personnes, dont 7 observateurs militaires de l'OSCE à Sloviansk. Les négociations se sont poursuivies hier après-midi dans la mairie barricadée. Le maire autoproclamé de la ville rebelle, Vyacheslav Ponomarev, qui parlait encore il y a deux jours d'échanger ses invités de marque contre certains de ses proches détenus, fait maintenant état de progrès dans les discussions, tout en prévenant que la levée de sanctions européennes contre des chefs séparatistes était maintenant une condition préalable à toute libération.
Notez que les États-Unis et l'Union européenne ont pris de nouvelles sanctions contre des responsables russes et de l'entourage de Vladimir Poutine. Une situation à suivre évidemment dans nos journaux avec nos envoyés spéciaux et à suivre notamment l'opération de l'armée ukrainienne lancée hier vendredi sur Slaviansk et ses conséquences militaires et politiques à Kiev ou Moscou. Et j'ajoute, puisque nous parlons de l'Ukraine et de la Russie, que demain dans le magazine Idée, 17h10, donc heure de Paris, notre invité sera l'historien spécialiste de la Russie, Georges Sokolov, qui vient de publier L'idée russe chez Fayard, pour mieux comprendre par exemple pourquoi il y avait tant de monde dans le défilé patriotique à Moscou le jeudi 1er mai, jeudi dernier. Donc, suite d'une semaine d'actualité, nous allons reparler de la rumeur. Nous disions au Franck Cognard que la rumeur se trouvait à tous les étages, dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Elle se trouve aussi dans les relations internationales.
C'est une arme stratégique, comme dans le domaine économique d'ailleurs, où elle fait partie d'un arsenal de moyens pour une entreprise ou pour un gouvernement pour porter son idée et la faire accepter par tout le monde. On va dire que les meilleurs là-dedans, ce sont les Américains aujourd'hui, que les Russes ont été très très forts. Ça paraît un petit peu anecdotique aujourd'hui, mais que les Russes, dans les années 80, ont quand même lancé une opération qui s'appelait Infection, qui visait à faire à croire que la CIA était à l'origine de la création du virus du sida. Bon, là, c'est un petit peu anecdotique.
Dans le livre, effectivement. Ouais. Non, c'était assez éclairant. Ouais.
Ouais. Et puis, il y a beaucoup plus célèbre, parce que là, ça nous a amené à des guerres, ça a amené le monde à une situation d'équilibre de plus en plus précaire, qui sont les deux guerres du Golfe. 1990, la première, avec ce faux témoignage d'une soi-disant infirmière koweïtienne qui dit-elle, a vu devant elle dit ça devant les télés américaines, devant une commission des parlementaires américains, retransmis sur 700 télés aux États-Unis, et elle dit voilà, j'ai vu de mes yeux des soldats irakiens qui ont envahi le Koweït, je les ai vus piquer les couveuses qu'il y avait dans notre maternité et jeter les bébés sur le sol. Et c'est ainsi que l'Amérique entre en guerre pour la première guerre du Golfe.
Et ces images ont servi d'argumentaire à la Maison Blanche, à commencer par au président George Bush senior.
Absolument. C'est le témoignage de cette jeune fille de 16 ans, Naïra, c'était une déflagration. Vous vous rendez compte? 700 télés qui retransmettent ça. L'Amérique voulait pas aller en guerre. Ça lui paraissait loin, le Moyen-Orient. Et là, elle a trouvé un moyen d'y entrer en brandissant l'étendard de la justice, en disant « Attention, regardez ce qu'ils ont fait à des bébés. Ils ont jeté les bébés par terre, les Irakiens. Il faut qu'on aille se battre là-bas. » Et la deuxième guerre du Golfe, c'est le même fonctionnement. Alors, on n'est pas sur un faux témoignage, mais on est sur de fausses preuves. Le flacon d'anthrax brandi par Colin Powell en 2003.
13 ans plus tard, en 2003.
C'est voilà, ça. En février 2003, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, pour dire « Regardez ce flacon d'anthrax que j'ai dans la main. » Ce qui est très courageux, hein, en plus de se balader avec un flacon d'anthrax comme ça. Saddam Hussein a des armes de destruction massive. Nous devons aller entrer en guerre et réduire à néant son arsenal. Là encore, fabrication totale, montage incroyable, mais dont on se rendra compte d'ailleurs quelques mois et quelques années après pour ceux qui voulaient vraiment pas être convaincus. Mais c'était encore une fois un montage total. Parce que c'est une arme, la rumeur. Ça vous permet d'arriver à vos fins beaucoup plus vite qu'avec des moyens traditionnels qui pourraient être, simplement la conviction diplomatique. Là, au moins, vous dites, regardez. J'ai un bon motif pour me battre, il faut qu'on y aille. Et c'est exactement ce qui s'est passé par deux fois.
Alors, votre livre écrit avec Mathieu Aron fourmille d'exemples internationaux, mais aussi des exemples français. Et vous essayez d'expliquer comment naît une rumeur et comment se propage-t-elle.
Alors, c'est vrai que c'est ce qui nous a beaucoup intéressé avec Mathieu. Alors, c'est déjà d'essayer de comprendre comment se monte une rumeur, comment elle peut être créée, comment on peut la disséminer de façon sûre et certaine pour arriver essayer de dire, attention, il y a peut-être des moyens pour les désamorcer, mais c'est très compliqué. On y reviendra si vous voulez, mais monter une rumeur, aujourd'hui, ça demande plus grand-chose, quel que soit le domaine. Quand on prend le domaine économique, par exemple, vous avez plus besoin d'être ingénieur informaticien pour faire des fausses références, des fausses cotations, pour pouvoir ensuite le balancer auprès de sociétés spécialisées en appuyant juste sur une touche. La société spécialisée va voir que, selon le petit argumentaire que vous avez fait, cette société a un mauvais bilan, donc il faut vendre. Le problème, c'est que c'est très facile de créer un mauvais bilan d'entreprise et de le faire. C'est dans la partie économique, c'est vrai qu'on a Emulex, une société américaine qui a failli mettre la clé sous la porte. United Airlines, qui a dévissé de 70% en 25 minutes. Apple, pareil. À cause de montage. On parle même pas en plus de petites sociétés. On parle de grosses sociétés. Une société comme United Airlines, c'était un géant de l'aviation américaine, un genou à terre en même pas 25 minutes. Tout ça parce qu'une fausse nouvelle a été diffusé. Alors, ça peut être de la malveillance, ça peut être de la maladresse, parce qu'il y a des exemples aussi comme ça. Mais aujourd'hui, dans le domaine boursier, quand vous prenez une rumeur, le trader qui va recevoir cette information ne se pose pas la question de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Ah, il la considère
effrayant.
Comme une information.
Ça, c'est effrayant.
Et il va y réagir en fonction
des conséquences que ça peut produire.
Mais c'est ça qui nous a beaucoup fait réfléchir avec Mathieu quand on a fait ce livre. C'est finalement, on s'est retrouvé un petit peu effaré par les conséquences que peut avoir aujourd'hui le lancement d'une rumeur aussi petite soit-elle, faite par quelqu'un dans son coin. Il y a par exemple un gamin de 15 ans qui s'est fait $250 000 en 4 semaines en jouant lui sur des petites sociétés parce qu'il voulait pas que ça se voit trop. Très habile. Mais pas un informaticien, pas un trader. Quelqu'un comme vous et moi, ça pourrait être notre gamin hein, de 15 ans. Il a réussi à empocher de $250 000 à peu près.
Pas mal.
Pas mal.
Semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Vous écoutez RFI, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, arrêtons-nous en Syrie, Franck Cognard, car c'est officiel maintenant. Bachar el-Assad est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Une très étrange élection qui aura lieu dans le pays en pleine guerre civile, on le sait. Elle aura lieu début juin. Beyrouth, Paul Khalife, lundi.
Après avoir déposé sa candidature, le président Bachar el-Assad a appelé les Syriens à exprimer leur soutien au candidat de leur choix en se rendant massivement aux urnes le jour de l'élection. Il les a aussi exhortés à ne pas exprimer leur enthousiasme en tirant en l'air. Un drôle de conseil adressé à un peuple qui ne connaît depuis 3 ans que le crépitement des armes et l'explosion des bombes. La candidature du président Assad prouve la détermination des autorités à organiser le scrutin à la date prévue, le 3 juin, malgré la poursuite de la guerre sur de vastes portions du territoire. Du nord au sud, en passant par la côte méditerranéenne et Damas, la bataille fait rage entre l'armée régulière et les rebelles. Le régime a intensifié ses offensives autour de la capitale et à Homs, dans le centre du pays, pour élargir la zone géographique sous son contrôle. Les rebelles concentrent leurs attaques sur la ville d'Alep et dans le fief du régime à Latakié pour tenter de torpiller le scrutin. Si les lignes de front se stabilisent d'ici au 3 juin, le pouvoir pourra organiser les élections sur 40% du territoire seulement, où se concentrent près de 60% des 23 millions de Syriens.
Syrie toujours avec une nouvelle preuve de l'impuissance de l'ONU dans cette guerre à cause du blocage russe au Conseil de sécurité. Les Nations Unies sont incapables de créer un couloir humanitaire pourtant prévu par l'ONU précisément. New York jeudi, Karim Lebourg.
L'accès humanitaire voté à l'unanimité par le Conseil de sécurité il y a plus de 2 mois n'a toujours pas été appliqué. Dans le huis clos du Conseil, le représentant russe n'a pas caché que la Russie ne fera rien pour forcer la main de Damas et que le seul problème, ce sont, a-t-il dit, les terroristes. Valérie Amos, la chef humanitaire, ne peut que constater l'impuissance de l'ONU.
J'ai dit au Conseil que la résolution humanitaire n'est pas appliquée. La situation empire de jour en jour. Nous avons signalé aux autorités syriennes des points de passage qui nous donneraient accès à 1 400 000 personnes immédiatement. Et nous n'avons reçu aucune réponse. We have seen no
progress on that. Plusieurs dizaines de juristes internationaux ont signé cette semaine une lettre exigeant de l'ONU de passer outre l'autorisation de Damas et d'imposer le passage des convois humanitaires en Syrie. L'ONU répond que la seule possibilité d'agir sur un territoire sans le consentement du gouvernement, c'est d'obtenir un mandat du Conseil de sécurité. Et sur la Syrie, c'est tout simplement impossible.
À suite d'une semaine d'actualité en Irak, cette fois où les électeurs ont donc choisi leurs députés, mercredi, là aussi dans un drôle de climat, Nicolas Falaise.
Ce fut un scrutin entouré de strictes mesures de sécurité, voitures interdites à la circulation dans Bagdad, la capitale, forces de sécurité déployées en nombre dans tout le pays, ce qui n'a pas suffi à empêcher les attaques et qui d'ailleurs risquent de se poursuivre après les élections. Malgré les violences, la participation est estimée à environ 60% selon la commission électorale. Les Irakiens ont voté pour choisir leurs 328 députés et une fois connu le résultat, les tractations risquent d'être longues avant d'aboutir à la formation d'une coalition. En 2010, le précédent scrutin avait été suivi d'une crise politique de 9 mois avant qu'un gouvernement ne prête serment. Cette année, la campagne électorale a été l'occasion d'entendre de très nombreux reproches adressés au Premier ministre Nouri al-Maliki, critiqué pour son autoritarisme, son sectarisme confessionnel et pour la situation économique et sociale peu reluisante de son pays. Malgré cela, l'homme s'est dit sûr de sa victoire ce mercredi. Il faut dire qu'à ce jour, bien peu de personnalités politiques irakiennes peuvent prétendre le remplacer.
Et on vous parle des résultats et des tractations dans nos journaux. À noter aussi dans l'actualité internationale les sentences de mort contre 683 partisans présumés de l'ex-président islamiste égyptien Mohamed Morsi lundi et les excuses de la présidente de la Corée du Sud pour avoir été incapable, dit-elle, d'empêcher les dysfonctionnements qui sont à l'origine du naufrage d'un ferry qui a fait, je rappelle, plus de 300 morts et disparu le 16 avril dernier. Corée du Sud qui connaît une série noire, comme on dit, puisqu'hier, une collision de deux rames de métro à Séoul a fait plus de 200 blessés. Suite d'une semaine d'actualité, nous continuons dans la rumeur, même si cette émission est une émission d'information et même si j'accueille un journaliste. C'est justement un des problèmes d'ailleurs pour les journalistes de se confronter à la rumeur.
C'est un véritable souci, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous, journalistes, on doit vérifier toutes les informations qui nous parviennent, même celles qui viennent de l'Internet. Heureusement d'ailleurs, c'est notre métier, ce sont nos règles. Le souci, c'est que Internet est un espace de liberté, mais c'est aussi un espace de liberté pour la dissémination de faux bruits, de rumeurs, d'intoxication, d'entreprises de déstabilisation. Et aujourd'hui, vérifier ce qui circule, vérifier chaque information qui circule, c'est un boulot de,
parce que ça va vite,
de malade, ça va très très vite. Donc, ceux qui créent les rumeurs de façon malveillante, afin de nuire à quelqu'un ou à l'entreprise, le savent. Et c'est d'une des personnes qu'on a rencontrées pour ce livre qui nous dit, nous aujourd'hui, quand on fabrique des bruits, c'est on connaît l'état de la presse, et on sait très bien comment la presse va réagir. Elle va faire du fast-checking, vérification rapide, au lieu du fact-checking, vérification des faits. C'est-à-dire que on va fabriquer quelque chose où le journaliste va vérifier deux fois, vite fait, puis il va se dire « Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'y reviendrai après. » Et c'est la source d'erreurs qui peuvent être formidables. Et nous-mêmes, à notre corps défendant, on pense avoir fait notre travail, on peut aider à disséminer une rumeur. Et c'est là tout le problème. C'est vous dites aujourd'hui sur l'Internet, vous avez le droit de rouler à la vitesse que vous voulez. Et nous, journalistes, on est limité à 130 parce qu'on s'impose des règles. Celui qui véhicule la rumeur arrivera toujours beaucoup plus vite que nous.
Un mot pour conclure cette première partie, Franck, si on parlait de Trees Jeffries, ce que vous racontez là est absolument effrayant.
Imaginez-vous, quelques jours avant le Noël 2010, vous êtes chez vous, vous apprêtez à sortir tranquillement de votre maison, vous buvez votre petit café, et vous, quand vous ouvrez la fenêtre, vous voyez qu'il y a une masse de personnes devant chez vous qui hurlent et qui brandit des panneaux avec votre nom, avec votre photo, et vous vous dites... C'est pas possible. Et il se rend compte à ce moment-là que, alors que dans la ville où il habite, Philadelphie, il y a un étrangleur qui sévit depuis quelque temps, qu'un portrait robot a été établi, le portrait robot correspond un peu à ses traits. Et une sorte de milice de gens bienveillants décide de diffuser le portrait robot le plus vite possible, jusqu'au jour où quelqu'un leur dit « Ah mais attendez, je crois que c'est mon voisin, le gars là, le portrait robot, c'est lui, c'est mon voisin, venez, on va chez mon voisin. » Et ces personnes se retrouvent prêtes à lyncher ce garçon, Trees Jeffries, qui n'a rien fait, qui se retrouve dépourvu, qu'est-ce que je dois faire? Alors il appelle la police, qui lui dit non, vous inquiétez pas, c'est pas vous, mais lui dit non, ça s'arrête pas là. Moi, je veux être sûr que ça soit pas moi.
Je veux sortir de chez moi tranquillement,
donc vous me faites un dépistage ADN pour vous assurer que c'est pas moi. C'est-à-dire que c'est lui qui dit, je vous oblige à le faire, je veux être vivant, je veux pas être lynché en sortant de chez moi. Donc là, on a en plus de la rumeur malveillante ou maladroite au départ, parce que les gens font ça par bon sentiment. Je veux prévenir, pas de bonne intention. Absolument, mais faut se mettre à la place de ce type qui se prend tout ça, qui se prend une manif en face de chez lui, des gens qui veulent le lyncher, et on se dit dans quel monde on vit.
Ça fait vraiment réfléchir, oui. Parce que chacun peut s'identifier à ce malheureux.
C'est comme l'histoire de Brest, une histoire un petit peu similaire. C'est un marginal, d'accord, qui voit une petite gamine toute seule dans la rue, c'est à Brest il y a 3 ans, qui la prend par la main pour la ramener à sa maman devant l'école. Les mamans affolées voient ce personnage un peu bizarre, habillé bizarrement, elle commence à crier aux pédophiles, à affoler, il y a d'autres mamans qui se mettent à courser ce type, qui fait une crise cardiaque dans le véhicule de police venu le chercher et le récupérer. Ce mec-là meurt. Tout ce qu'il voulait, c'était ramener une petite gamine à sa maman. Et les mamans, elles ont pensé devoir défendre leurs enfants. Et ce qu'il y a de pire après, c'est qu'on se dit, mais ce type-là, il avait rien à voir avec votre histoire, madame. Il dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ça, c'est la force fatale de la rumeur.
Il n'y a pas de fumée sans feu. Franck Cognard, on va marquer une pause pour écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
À tout de suite.